Vous êtes sur Radio Canu le 102.2 en direct du Salon des Éditions Libertaires et on est avec la revue Tumulte.
Salut. Alors,
bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais, ça va bien.
Eh ben, vous allez nous parler un peu de votre revue et tout d'abord, on va vous demander d'où ça vient cette revue, comment elle est née.
Ouais, en fait, on est que des personnes qui n'étaient pas là à l'origine, ça va être un peu la blague de raconter comment ça a commencé. Mais je me tourne vers toi par là-bas, je me dis que tu as plus d'infos, parce que nous, on est stagiaires, on est là pour le café surtout.
C'est pas vrai, il n'y a pas de stagiaires à Tumulte. En gros, comment est née la revue ? C'est une bande de copines qui se sont dit, en évoluant dans des réseaux de réflexion et discussion politique, à un moment donné... Bon, on a du mal, on a vachement du mal à lire des textes théoriques. Qu'est-ce qui fait aussi que la plupart des textes sont écrits de façon qu'on n'arrive pas à les lire et un peu, je sais pas comment on dit, un peu austère peut-être. Et de dire, en plus, c'est souvent des mecs qui tiennent ces rôles-là. Et alors nous, on va essayer de faire une revue pour parler de... Au départ, l'idée, c'était pas forcément une revue, je crois. Mais en tout cas, ça a débouché sur Tumulte. En gros, je... C'est clair, je sais pas.
Ouais. Ah non, mais c'est clair. Mais ça fonctionne comment, en fait ? Enfin, comment vous vous réunissez ? Comment vous créez la revue ?
Eh ben, en tout cas, c'est, du coup, c'est une revue qui fonctionne avec des contributions. Ça veut dire que l'équipe qui fabrique la revue, c'est pas forcément l'équipe qui écrit les textes. Ça veut dire des fois on en écrit quelques-uns, des fois aucun. En tout cas, jamais l'intégralité du contenu. Et du coup, ben, vu que c'est des contributions, ça peut être des personnes qui envoient spontanément des textes, des dessins, des photos, des choses qui ont été faites. Ça peut être aussi nous qui allons un peu réclamer quand on sait que telle personne fait quelque chose qui peut nous intéresser, tout ça. Et ensuite, il y a une forme de dialogue, en fait, pour revenir sur les textes ou les propositions. C'est-à-dire, c'est pas une question d'accepter ou refuser, mais de dire, voilà, de reformuler ou des choses qui pourraient déranger ou quoi, qui peut être plus ou moins long. Selon comment les versions sont abouties ou pas. Et ensuite, eh ben, il faut que ça rentre dans un magazine, quand même. Donc on ne peut pas tout mettre dedans, mais on essaie de faire un truc cohérent, quoi.
Et du coup, juste pour redire, donc c'est une revue qui paraît tous les combien, qu'on peut trouver où ?
Eh ben, ça s'appelle une revue apériodique régulière, parce que ça dépend. Mais là, c'est plutôt calé sur tous les ans. Mais à une époque, c'était plus fréquent. Là, le dernier, il est sorti en septembre 2013 et le prochain, il sera prévu pour septembre 2014.
Alors moi, du coup, je suis une grande fan de Tumulte. Donc, pour décrire un peu peut-être aux auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas, c'est une revue qui est super chiadée quand même, qui est super belle. Il y a souvent des belles photos, des dessins. Hein, vous me dites quand je me trompe.
Ouais.
Et du coup, c'est un travail, j'imagine, qui prend vachement de temps. Et en plus, sur le fond, c'est pas du tout les mêmes types d'articles. Il y a des articles vraiment, il y a des trucs plus des témoignages, il y a des articles de réflexion. Enfin, il y a plein de formes d'articles différents. Je sais pas, est-ce que vous avez envie de développer comment vous réfléchissez vos articles par rapport à quel thème ? Comment vous répartissez le boulot éventuellement ?
Eh ben, je peux te dire ce que je sais, tu pourras compléter. En tout cas, un des trucs que je pense qui est pas toujours le cas pour les revues comme ça, c'est que c'est pas une revue thématique. C'est-à-dire, il y a pas d'appel à contribution qui soit fait selon des thèmes, et les choix sont pas faits non plus en fonction de ça. Et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, les diverses contributions s'étaient bien agencées pour arriver à faire quelque chose de cohérent, avec des trucs qui se répondent, qui se complètent, qui donnent des perspectives différentes. Mais c'est quand même vachement au gré de ce qui arrive, quoi. C'est un peu, disons, le hasard a bien fait les choses toutes ces fois-là. Je sais pas si t'as
ouais, jusqu'à maintenant, c'est plutôt comme ça. Le numéro, il se construit à chaque fois sur les contributions qu'on reçoit. Il se trouve qu'on a très peu refusé de contributions ou ne pas publié de contributions depuis l'histoire de Tumulte, là, depuis le début. Il se trouve qu'il y en a à peu près le bon nombre qu'il faut pour que ça fasse le bon nombre de pages. Et c'est un peu un hasard si ça tombe bien agencé, si ça se répond, si c'est en écho. De temps en temps, on essaye de lancer des thèmes et pour l'instant, on n'a pas encore commencé. C'est une question qu'on se pose à travailler sur. On choisit un thème et un peu à la OLS, quoi.
Ouais. Mais par contre, à chaque fois, dans l'appel à contribution, il y a des idées ou des suggestions de thèmes ou de questions qui nous intéressent plus particulièrement ou dont on a l'impression qu'elles sont un peu dans l'air et que ça serait intéressant que des gens puissent proposer des choses, mais. Ouais, ça constitue pas forcément, il n'y a pas des dossiers thématiques ou des trucs comme ça. Après, il y a des rubriques qui balisent un peu la lecture de la revue pour les personnes habituées. Il y a des rubriques qui se retrouvent d'une fois sur l'autre. Mais ouais, pour l'instant, ça fonctionne comme ça.
Et du coup, bah, comme c'est une revue, elle se trouve où, comment ?
Alors la diffusion de la revue, c'est une diffusion artisanale, on pourrait dire, on l'a fait un peu nous-mêmes. Ça passe par des réseaux de lieux de diffusion, genre info kiosque, sur des événements, des choses comme ça, des gens qui tiennent des stands. Et c'est un peu diffusé en librairie aussi, dans certaines librairies. Alors il y a des coins qui sont plus couverts que d'autres, on peut dire, mais on essaye de faire en sorte qu'il y en ait un peu partout. Donc ça passe par les gens qu'on rencontre et qui voyagent et qui disent « Bon, bah voilà, moi je peux en emmener à Angers, moi j'en m'emmène à Strasbourg, ah tiens, je vais en Bretagne. » Et de temps en temps, il y a des gens qui nous contactent aussi par mail en disant « Bon, bah nous, on est une librairie dans tel coin ou des individus, comment on peut trouver la revue, à quels endroits ?» Donc, ça permet de créer des points de diffusion à des endroits.
Et du coup, vu qu'on est à Lyon, là, sur Lyon, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être les points de vente ou les endroits où on peut le trouver ?
Alors, il y a, dans le 7e, il y a Terre des Livres et la librairie La Griffe. Il y a aussi le local féministe.
Ouais, et des fois, il y en a à La Lutine. Ouais. Le numéro 6, c'était à La Lutine cette année. On n'y est pas passé. Je ne sais pas si ça y est arrivé. On n'est pas très carré.
La Lutine, c'est à côté de l'atelier des canulars rue Montesquieu, hein, je rappelle juste.
Ouais. Et dans le premier,
il y a plusieurs lieux, c'est des librairies principalement. Il y a Ouvrir l'œil rue des Capucins, le Tasse Livre qui est un café librairie place Satonnet, la Plume Noire.
Ouais,
on n'est pas encore passé non plus dans le premier cette fois-ci.
Ouais.
La Fanzinothèque et salle d'exposition dans le premier qui s'appelle Le Cri de l'encre aussi, où on en a laissé. Ben, il faut qu'on y repasse. Du coup, là, c'est pas un point de diffusion, mais il y a moyen d'emprunter pour feuilleter et le ramener.
Et c'est possible de s'abonner ou pas ? Et de le recevoir chez soi ?
Question épineuse de l'abonnement.
Non, c'est pas. Je lance une polémique.
Non, pour nous, c'est assez clos. Hein. C'est plutôt que. Du coup, on en parlait tout à l'heure. En fait, le truc, c'est que nous, la revue, elle est. Enfin, il y a un prix librairie qui est indiqué dessus, mais qui n'est pas le prix. Si on le vend à prix libre. Et du coup, si on l'envoie, et ben en fait, les frais de poste vont être équivalents au prix de la revue. Du coup, on trouve ça un peu dommage de finalement faire doubler le prix de la revue à cause de la poste. Et il y a ce truc de faire réseau, c'est-à-dire d'encourager les personnes qui souhaitent se procurer la revue à aller en fait dans les lieux où elles sont, ce qui permet de connecter avec des gens, de la récupérer en main propre, de discuter. Peut-être ça peut donner lieu à une discussion après publique. Enfin, plein de
faire connaître des lieux, de faire exister des nouveaux points de diffusion, de choses comme ça.
Du coup, c'est un peu si vraiment il n'y a que cette solution, qu'il y a une personne qui est isolée quelque part, qui ne peut pas se procurer, ou pour plein de raisons techniques, nous, c'est pas qu'on refuse de l'envoyer, mais disons que ce n'est pas le moyen de diffusion qu'on privilégie pour les raisons qu'on vient de citer. Quoi.
Et c'est aussi, ça crée un peu peut-être une impression de diffusion presque confidentielle. Et après, c'est aussi que c'est tiré à 2000 exemplaires. Donc il n'y en a pas non plus des masses. On n'a pas. Donc du coup, on n'a pas non plus mis en place un système d'abonnement comme font les journaux, les revues qui sont publiées à des milliards d'exemplaires, quoi. Ce qui fait qu'on n'a pas de tarif.
Ouais. Alors. Je sais pas, peut-être on peut revenir aussi sur le fond, parce que tout à l'heure tu disais, on a remarqué, nous on voulait produire des analyses, etc. T'as du mal à s'approprier la théorie, et il y a aussi un fond féministe dans Tumulte. Alors je sais pas, est-ce que vous avez envie d'en parler ? Comment ça s'exprime ? Pourquoi justement ce besoin peut-être de se retrouver en non-mixité pour écrire ? Parce que je crois que la revue elle est écrite en non-mixité, si je me trompe pas.
Ouais.
Expliquez ça peut-être.
Alors l'idée de départ c'était de se dire, on va avancer masqué. Après, là, la géométrie de l'équipe a changé. Il faut qu'on en rediscute, tout ça. Mais de pas afficher la revue comme féministe, parce que dans l'idée que ça peut donner une espèce d'a priori sur les écrits qu'on va trouver dedans. Donc, c'était un choix de rédaction au départ de pas annoncer ce truc-là. Après, sur l'esthétique, la façon dont c'est fabriqué, etc., il y a plein de lieux où on est passé. Les gens, ils nous connaissent pas. Ils connaissent pas la revue. Ils disent, ah ouais, c'est un truc féministe. Ça se voit direct. On a eu souvent ce retour-là quand même.
Et ça se voit quoi ?
Je sais pas. Ben,
d'après eux ?
Je sais pas, je sais pas, j'ai pas posé la question. Mais c'est sur un truc d'esthétique d'habitude. Ah. C'est des féministes, donc ça doit être des femmes, elles font des trucs jolis.
Mais en tout cas, il y avait aussi cette volonté. Pareil, je sais pas, les choses évoluent, hein, mais en tout cas, à un moment, il y avait aussi la volonté de se dire certes, c'est une équipe en non-mixité. meuf queen trans pour pouvoir se réapproprier l'écriture et se sentir légitime à poser des mots et tout ça. Mais pour autant, il y avait l'envie de pas être cantonnée à des sujets classiquement féministes, en fait. Et ça, c'est aussi une des particularités quand même où c'est une manière de voir le féminisme qui est partagée par plein de gens, hein, cela dit, qui dit en fait que le féminisme, c'est un truc transversal aussi. C'est-à-dire, c'est pas des sujets dédiés qui sont les seuls sur lesquels on peut se prononcer et avoir un avis, mais c'est aussi à un moment une manière de voir et d'analyser les choses qui est valable sur tout un tas de trucs et pas seulement les sujets que le féminisme a le plus exploité de manière plus classique, quoi.
Ouais, je dirais même c'est une façon d'aborder les luttes, la façon dont on choisit de lutter à un moment donné. De pas vouloir fonctionner. Après, c'est des choix, hein, je pense, des choix stratégiques de pas fonctionner en fonction de lutte prioritaire et lutte secondaire. Et l'autre truc qu'on peut rajouter aussi sur la non-mixité qu'on a choisie pour les contributeurs, contributrices à la revue, c'était aussi dans l'idée de se dire on veut publier des paroles qui sont peu ou pas entendues, qui n'ont pas de tribune facile d'accès, etc. Et donc l'a priori choisi, c'est celui-ci, mais... En tout cas, ça peut arriver. On a déjà publié au moins un témoignage que j'ai en tête où c'est pas une personne qui fait partie de cette mixité choisie là, par exemple, qui était une parole de migrant en l'occurrence. Donc, qui sont en tout cas jusqu'à maintenant, on s'est dit, c'est pareil, c'est des choses qui bougent. Ça, on s'est dit à un moment donné, on va pas non plus s'empêcher de publier des trucs hyper intéressants, novateurs, peu entendus à cause de ça.
Ouais, c'est un peu l'idée de faire parler des gens qui parlent jamais, en tout cas. Du coup, ça peut des fois être des hommes migrants, comme tu dis, quoi. C'est pas... Ok. Mais moi, parce que je trouve ça super intéressant, l'idée que dans une revue avec... Bah, du coup, même si la revue se dit pas féministe, mais qu'il y a quand même l'idée déjà d'écrire en non-mixité, etc., que vous abordiez plein de sujets. Parce qu'en fait, c'est vrai que les articles, le fond, il est super différent d'analyses que tu trouves d'habitude. Et c'est vrai que tu sens que les analyses politiques que tu trouves d'habitude, elles sont souvent rédigées par des mecs blancs et vieux, quoi. Du coup, dans le positionnement. Donc moi, je trouve ça super intéressant aussi, parce que, juste pour redire... Il y a la personne qui fait la technique qui est pas contente, mais apparemment il se vit comme vieux blanc et riche ou pas. Mais nous, c'est pareil, sur Radio Canut, j'anime une émission qui est faite en non-mixité. On a tout le temps les mêmes questionnements de quand même aborder aussi d'autres sujets, mais avec notre point de vue à nous. Et je trouve que ça, c'est super intéressant.
C'est ça, nous, c'était l'idée de se dire on n'a pas envie d'être cantonné au sujet attendu du féminisme, et on est persuadé que ça transpire notre, comme une espèce de magma et de culture dans laquelle on baigne. C'est une des grilles de lecture du monde qu'on a, et de toute façon ça va transpirer dans ce qu'on va publier, et effectivement ça transpire, ouais.
Ah oui, ouais, une petite pause musicale,
attendez voir. Ouais, ça le fait, on lance.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu et on est en direct du Salon des éditions libertaires et on vient d'écouter...
Hamama de Raina Raihagda.
Eh ben voilà, tu vois, finalement, c'était pas si difficile à dire. Et on est avec le groupe des gens qui font la revue Timult et qui est présente sur le salon. Si vous voulez la trouver, vous pouvez la trouver aussi ici d'ailleurs. Et bah, si vous voulez nous présenter le numéro en cours, ce serait pas mal. Voilà.
Ouais. Du coup, c'est le numéro qui est sorti en septembre, là, il y a juste 2 mois. Et au niveau des articles, eh ben, on a tout un dossier qui s'appelle Semtazad. Donc, qui parle de la zone A, D, j'oublie toujours, c'est...
Défendre.
Merci, j'ai toujours envie de dire déconstruire.
ah bon ?
À Nantes.
Non, ça, c'est Vinci qui veut la déconstruire, c'est pas...
Il y a un petit conflit d'intérêt, tout à coup. Du coup, voilà, la ZAD. Donc, il y a un dossier là-dessus, avec 3 petits articles. Dans la rubrique frontières, on a un récit de voyage critique à Hong Kong. On a la rubrique stratégie aussi, avec un article sur la commune de Auckland, où un mouvement de lutte insurrectionnelle qui allie plein de gens qui n'ont pas l'habitude de se retrouver dans la rue habituellement. Un article un peu théorique, mais qui ne fait pas trop peur, sur l'intersectionnalité, qu'on a du coup appelé un peu pour la blague « Vous avez dit inter quoi ?» parce que c'est un mot qui fait un peu mal à l'oreille. Et y a comme d'habitude la rubrique Notre Histoire avec voilà, l'idée de raconter les histoires qu'on n'entend pas beaucoup, les histoires qui ont un petit âge, quoi. La rubrique érotico-politique et des notes de lecture, des brèves, des courriers, des instantanés. Et on a aussi une rubrique milieu avec un article qui s'appelle Écriture fragmentaire. Alors, bon, c'est la radio, donc on ne peut pas trop voir, mais j'ouvre la page et c'est une espèce de page un peu ouf, avec des mots dans tous les sens, 18 polices, des petits dessins, c'est griffonné, c'est tout chelou. Et peut-être on va en parler un petit peu plus sur qu'est-ce qu'il dit cet article Écriture fragmentaire.
Alors, ouais, peut-être que ça fait un effet un peu rebutant au départ quand on ouvre la revue, puisque ça prend toute la place, les écritures qui prennent toute la place sur une page, il n'y a pas de marge, il n'y a aucune respiration. L'idée de ce petit bout de truc, d'assemblage comme ça, c'était à un moment donné de questionner c'est quoi notre rapport à l'écrit et comment il y a un formatage qui existe, tout ce genre de questions de quel pouvoir on a par la maîtrise de la langue, une certaine maîtrise de la langue écrite, comment on peut se sentir légitime ou pas à l'utiliser, à rédiger un tract, à fabriquer du texte pour mettre sur une affiche, rendre des écrits publics, etc. Et du coup, c'est des questionnements moi que j'ai voulu amener quand je suis arrivée à Timult. Et notamment en passant par la question, donc ce qui se fait dans tout travail de publication, d'édition, qui est la relecture, tout le travail de relecture, et qui a tendance à me heurter à certains endroits, parce que dans ce truc de formater un peu, et de le formatage par suivre les règles du bon français, entre guillemets, de grammaire, d'orthographe, etc. Et est-ce que c'est quelque chose qui reste dans un truc élitiste, ou est-ce que c'est un outil qui est quand même utile à un moment donné? On peut par exemple utiliser des mots qu'on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, donc on passe pour des tarés, hyper intello et tout ça. On se dit ah, ça c'est pas pour moi. Mais en même temps, si on arrête d'utiliser plein de vocabulaire différent, on peut aussi se demander si notre champ de possibilités des réflexions il devient plus étroit. Enfin voilà. C'était dans l'idée de questionner un peu tous ces trucs de rapport à l'écriture. Et ça a donné ce truc-là, quoi. Je ne saurais pas quoi dire de plus.
Du coup, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on est à la radio, c'est toujours le problème. C'est vrai que c'est assez ouf, quoi, les 2 pages. Est-ce que tu peux quand même décrire, je sais pas, à quoi ça ressemble, comment elles sont remplies?
Ouais, alors elles sont remplies. L'idée, c'était de... Comme... En fait, on n'arrivait pas non plus à s'emparer. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à m'emparer du sujet vraiment pour en faire un texte abouti, blabla et tout ça. Et je trouvais la forme un peu compliquée aussi pour parler de ce sujet-là. C'est des petits bouts de trucs, des récits de trucs vécus, de comment j'ai pris conscience de ça à un moment donné. Par exemple, il y a un récit de ça à un moment, des trucs qui sortent comme ça. Essayer de trouver plusieurs formes d'écriture aussi. Il y avait l'envie qu'il y ait un petit bout de passage BD. Alors c'est vraiment tout petit, il y a 3 cases. Il y a un passage un peu aussi... Il y a des moments où ça joue avec la rythmique des mots, les sonorités et tout ça. Il y a des moments où c'est juste des idées jetées sur le papier. Il y a des moments où c'est un texte vraiment insupportable, ultra, un peu dans une forme théâtralisée, mais le contenu c'est un peu genre conférence très imbue. Je sais pas, et c'est mélangé comme ça, alors je sais pas trop ce que ça peut.
C'est dur à décrire, c'est un peu un ovni quoi, genre un ovni du magazine. Ouais.
Il y a des trucs qui sont tellement, que je trouvais tellement chiants dans le contenu que même volontairement, il y a un truc de la police qui devient de plus en plus petite, il y a des phrases qui sont superposées. Bon.
Vous avez qu'à venir voir au stand, comme ça vous pourrez vous faire une idée. Je crois que c'est page 26 et du coup on est en plein milieu de la salle entre Tyne Barty et Super Féministe.
On arrive, il y a quelqu'un, des gens qui vont arriver par horde, ils vont dire ouais, je veux la page 26 du numéro de Timmy.
Par contre, il faut prendre le numéro entier, mais ouais, vous pouvez regarder en premier la page 26.
Il n'y a pas de vente à la découpe en fait. Donc ça, c'est... Et du coup, donc, c'était important pour vous d'être au salon et de faire connaître la revue, parce que c'est une démarche qui peut être vue comme particulière, mais.
Ben,
c'est la question qui tue,
ça.
Ouais. Ben, non, mais il y a des revues, par exemple, qui, quand elles réseautent comme vous le faites, ne souhaitent pas forcément venir dans des salons.
Ah oui.
Et vous êtes là, donc c'est bien. C'est aussi une façon de réseauter pour vous ou...
Ben, c'est la troisième fois qu'on... Je sais pas, c'est la troisième fois qu'il existe, ce salon.
C'est ça,
c'est ça hein. Donc, c'est la troisième fois qu'on reçoit l'invitation. Ouais. Les deux autres années, il y a une fois, il y a une personne qui est venue, la première année, il me semble. De façon assez confidentielle, je crois. Bon, elle avait dit que c'était intéressant et chouette. On n'est jamais revenu. Et là, cette année, on s'est dit oui, pourquoi pas. En fait, c'est l'occasion de rencontrer du monde, peut-être de faire un peu plus connaître la revue, de discuter avec des gens, de partager des espaces et des temps de discussion avec d'autres revues, des maisons d'édition.
Oui, puis je pense, enfin, ça fait aussi écho à ce qu'on disait avant sur ce truc de pas vouloir être cantonné au milieu féministe, c'est-à-dire on va pas aller que dans des événements qui ont le label féministe sur l'affiche, quoi. Et que du coup, nous, en fait, je pense en tant que personne, on brasse dans différents milieux et dans différentes dynamiques, et du coup, ça se retrouve aussi dans l'envie de pouvoir participer à un salon comme ça, où en fait, on a plein de camarades à droite à gauche, quoi.
Et moi, du coup, j'ai une question sur est-ce que vous recevez beaucoup de. Par rapport justement au lien que vous avez avec les autres personnes qui lisent peut-être Tumult ou pas, est-ce que vous recevez beaucoup de courriers, beaucoup de retours sur vos articles? Et c'est comment?
Jamais assez. C'est sûr, on en veut plein. Envoyez-nous des lettres d'insultes, des lettres d'amour, des mails, n'importe quoi. Non, on est hyper friands de retours, ouais. C'est clair.
Oui, c'est ce que je regardais. Je me disais, si on en veut plus, il faut qu'on donne l'adresse. Mais je cherche l'adresse postale parce que moi, j'aime bien les cartes postales. Donc, c'est Tumult, 15 rue Jacquet, 38100 Grenoble. Et sinon, par mail, Tumult. Du coup, Tumult, ça s'écrit sans E. T-I-M-U-L-T, @ riseup.net. Donc voilà, bienvenue...
En privilégiant donc les cartes postales, on a bien compris.
Ah, mais même les lettres un peu plus longues que les cartes postales, on adore.
Ouais. En tout cas, des retours, ouais, c'est hyper important.
Et, du coup, on rappelle, comme vous disiez, vous fonctionnez par contribution, c'est qu'on peut, bah, on peut envoyer des lettres pour vous dire ce qu'on a pensé du numéro, mais on peut aussi proposer des articles.
Carrément, volontiers. Même.
Et c'est comment alors les modalités pour ça? Simplement, on envoie.
Ben ouais, hein,
ouais.
De toute façon, regarde.
Souvent, on reçoit des mails, en fait, à l'adresse de Tumult. Je pense que c'est des gens qui ont lu la revue ou qui nous connaissent.
Ouais.
Et des gens qui disent, ah ben voilà, moi je vous propose un texte sur ça.
C'est ça, et puis en fait, les numéros, ils grossissent de numéro en numéro. Donc, je veux dire, même. Là, il fait, je crois, 80 pages. Et il n'a jamais été aussi gros, en fait. Mais du coup, voilà, si on a des trucs qui nous intéressent, on les publie. Du coup, même format, on n'a pas de limitation de signes ou de trucs comme ça. Enfin, même les trucs qui sont peut-être un peu hors...
Peut-être je vais me permettre de contredire un peu mon petit camarade. En fait, là, Tumult fait 80 pages aussi parce qu'on a choisi de grossir la police. Au début de Tumult, la police était minuscule et à chaque fois, on a eu des retours. Mais c'est petit, c'est hyper validiste et tout ça, ce que vous faites. Donc à chaque fois, on essaye de grossir un peu et ce coup-ci, on a grossi vraiment. Donc il n'y a pas plus de contenu que d'habitude, hein, pas du tout. Il y a juste la police qui est plus grosse. et ça fait plus de pages. Et on a déjà eu des retours de 80 pages, c'est vraiment le maximum. C'est pas ce à quoi on est habitué avec Timul. Ça peut être devenir un truc impressionnant et du coup moins dans. Enfin, c'est des retours qu'on a eu ça. Après, c'est pas massif comme retour. Hein. Et en tout cas, en termes de format, pour l'instant, la revue, c'est un format broché. Ça veut dire c'est des feuilles pliées en deux agrafées. Et c'est pas possible de faire plus de pages. Là, c'est déjà galère, 80 pages à ce format-là. Après, il faudrait passer un format collé, quoi, si on veut faire plus de pages.
Mm-hmm. Après, il faut que vous en fassiez plus par an, quoi.
C'est ça.
C'est de faire plein de numéros.
Ouais.
Et ça aussi, c'est pas possible, a priori. Ben, on arrive vers la fin de.
Oh.
Ouais, c'est triste. Hein. Ben, vous voulez peut-être rester ou revenir en demain, peut-être. Et du coup, il y avait un petit morceau de musique pour finir, mais il faudrait l'annoncer avant, du
Et
coup, ouais. Ce serait bien.
Eh ben, on n'a qu'à se quitter en écoutant un morceau de Epsilon. Oh là là, mon MP3 me dit pas le titre. Le titre, c'est. Je représente. Non, Sans d'encre. Voilà, Sans d'encre de Epsilon.
Ben, merci beaucoup, Timult.
Ouais,
merci,
à bientôt. À bientôt en
merci,
bas.
Merci, à bientôt.
De la haine dans ma vision, génération gastrovin à bout de souffle, le bitume est dans les veines, ancré et la misère dans l'ADN missionnaire. J'ai fait mes classes dans la rue, pas plus qu'ils en lui hip-hop, le rap est mon seul diplôme, ma seule issue pour quitter le monde, quitter la zone, réaliser les vieux rêves du daron et de la daronne. Fait dans les corps vocales des milliers de feuilles et de trois potes pour entourage, parce qu'au fil du temps, les gens se lâchent, les MC proches n'assument plus que la petite meuf du Jekar. Aujourd'hui, elle assure bien plus que si hier ils me chambraient, aujourd'hui je les martèle. Je vis quand je rappe dans l'excès, à chaque phrasé je les enterre. Pas besoin de ton cesse, de ton fils, aujourd'hui je suis ton daron et pas ta fille, mec. Affilié à aucune team.
Indépendant, le projet s'appelle Sans d'encre. Premier dans les hommes, premier dans les blocs. Argent, Epsilon. Premier dans les hommes, premier dans les blocs. Indépendant, le projet s'appelle Sans d'encre. Premier dans les hommes, premier dans les blocs. Argent, Epsilon. Premier dans les hommes, premier dans les blocs.
Dans leur ville, mes côtés, dans leur secteur. Ils ont des vues sur YouTube, savent pas rapper, mais pensent faire des tubes. Écoute, trafiquer, autotune. Et mec, Brian ne rappe plus pour l'industrie du kiss qui se prostitue. Ça joue les Kaira en acheté. Rien à foutre, mec, moi, j'rappe en indé. Ça joue les stars, mais ils ne sont que des groupies avec des strass qui déplacèrent à tout va des mythos de pétasse. Ça joue les gains. Gangsta avec des meufs, des grosses caisses, le tout filmé en soirée chicha. Appelle-moi Miss Green, meuf de thèse, de la hache, un vent, un poteau, du bon son et quelques rimes. Les MC ne connaissent plus tous leurs classiques, pensent que Skyrock est
premier sur le rap, premier sur le rap.
Ça c'est d'être depuis qu'a cessé de tourner sur la FM, NTM, la scred et puis le rap.
Indépendant, le projet s'appelle Sans d'encre.
Guetta fait du peura quand les MC se mettent à chanter. Y'a pas que Liam qui est dans la folie. Génération d'incrédules, bonobo débile, de Laurent Bounot débile à la chaîne des rimes sans but. Ça s'invente tout en vécu pour la street crédibilité. Le biz est une réalité. MC, tu t'es limité. Le ghetto est censuré sous les ongles. Depuis Paris, sous les bombes, ils ont vu que le rap faisait bouger le monde. Solitaire pour Skyrock, indifférent des causes du monde, évitant la Palestine, manifester contre les génocides. Attachés à leur carrière, des faux culs qui se soulagent à confesse ou quand ils se prosternent. Mon équipe et mon vécu, ma feuille et puis mon pic. J'rappe dans l'ombre sous Stepit et espère comme des disques indépendants. Le projet s'appelle Sans d'encre. Blessé par la vie, enfant des rues, moi j'voulais juste rapper.
Indépendant, le projet s'appelle Sans d'encre.
Epsilon.